qu'il m'a fallu vraiment détruire toute nostalgie pour comprendre quelque chose. Mais quand même, il y a quelque chose pour moi de fondamental, c'est rappel d'énergie, rappel d'identité humaine, quoi, qui sont partout présentes.
Ça pourrait vous mener aux quatre coins du monde, alors, Carmen Castillo, pas forcément en Amérique du Sud, cet élan-là.
C'est vrai, en vivant en France, d'ailleurs, il y a des moments où je me suis vraiment intéressée à travailler sur un pays d'Afrique ou récemment sur l'Algérie, mais disons que je ne me sens poussée à faire quelque chose pour raconter ici quelque chose de là-bas que pour le moment dans ces histoires qui se passent en Amérique latine.
Quelle est justement l'importance de ce travail de mémoire et d'histoire, importance à la fois personnelle et politique?
Je pense que, justement, par exemple, l'armée zapatiste a redonné à l'histoire une place dans la politique. Et je pense que sans mémoire, sans histoire, il y aurait le risque d'une répétition sans fin. C'est ce que je n'arrête pas de dire au Chili. Si on ne se souvient pas, l'histoire se répétera. Et qu'on ne vienne pas me dire que les Chiliens ne veulent pas se souvenir. Les Chiliens veulent se souvenir, veulent savoir ce qui s'est passé. Parfois, les pouvoirs ne s'intéressent pas ou rejettent le souvenir. Mais pour moi, ça fait partie d'un travail du présent, du devenir. C'est-à-dire, comment faire avec le passé dans le présent, puisque tout le passé présent s'inscrit dans un devenir, c'est-à-dire à la fois pas de nostalgie, mais histoire, mais mémoire, et donc une lignée de continuité qui serait le devenir. Pour moi, je crois qu'en politique, c'est essentiel.
Au niveau personnel aussi, puisque vous-même avez été militante, vous avez fait le parcours de la clandestinité, mais de l'arrestation, de la mort aussi, de la torture. Comment se vit ce travail de mémoire actuellement au Chili, soi-disant revenu à la démocratie?
C'est très étonnant parce que je pense que les jeunes veulent vraiment qu'on leur raconte. Je pense que les gens qui ont souffert au Chili aujourd'hui sont très marginalisés. Bizarrement, c'est pas bizarre, c'est comme partout pareil, mais il y a une espèce de moment où le nouveau héros du jour au Chili, c'est l'argent. Et celui qui gagne de l'argent est bien perçu, est bien vu. Celui qui a souffert ou qui a des choses à raconter est ringard ou est perçu comme ça. Mais ça ne dure pas, ça. Je suis sûre que ça va bouger. Et que quand on a des choses à raconter, des choses à dire, et qu'on essaye de trouver les moyens, la forme pour les raconter, pour les dire. Et ça passe énormément et ça produit des effets formidables.
Est-ce que ça voudrait dire aussi, comme en Argentine, l'exigence de procès, que les tortionnaires soient jugés?
Ah oui, non, si. Toute cette histoire qu'on nous demande de pardonner, mais il n'y a personne qui demande pardon et il n'y a pas de justice, ça ne va pas. Quelle réconciliation, sur quelle base? On disait, et on répète, on ne peut se réconcilier que s'il y a justice, que s'il y a des gens qui reconnaissent leurs crimes. Et pas si on nous raconte que tout ça était bon pour le pays, parce que maintenant, c'est la réussite économique, et les macro-indices sont bons, et que les gens sont contents, comme des zombies, à habiter dans cette société la meilleure qu'on peut avoir. Tout ça, c'est de l'illusion, vraiment.
Carmen Castillo, le cinéma, pourquoi cet outil pour faire ce travail de mémoire et ce travail de vie, de garder dans la vivant cette notion de la lutte pour la liberté et tout ça, c'est un outil particulier. À la fois, ça permet un recul et puis ça peut être très proche des gens dans la mesure où ça, c'est quand même une chose que les gens utilisent beaucoup, souvent, tous les jours.
Oui. Je pense que ce qui nous meuve, hein, dans un écrit, dans un livre ou dans un documentaire, et l'espoir que quelque chose restera, résistera au temps et au nihilisme, au tout est pareil, à cette espèce de danger terrible qu'il y a dans l'information aujourd'hui, et peut-être depuis toujours, j'ai pas trop réfléchi, mais cette espèce de effacement quotidien d'une douleur, d'une information par une autre, cette espèce de grand moment de mode, quoi. On parle d'un drame, d'une horreur, cette espèce de mise en scène de la mort et du massacre. Le documentaire, j'espère, est là pour durer, pour provoquer une rencontre entre les téléspectateurs et une histoire. Et pour produire presque un rapport émotionnel ou de pensée. Donc c'est tout. Un tout petit espoir que quelque chose va rester. Dans le cas de la flaque Alejandra, je pensais qu'il y a un témoin vivant qui puisse nous raconter en direct de ce passage de la trahison à la contre-trahison ou de la trahison aux demandes de pardon. Cette espèce de cercle comme ça dans le temps, en 20 ans, était un document exceptionnel. Au départ, j'avais pensé faire un livre, et puis après, je me suis dit, mais il y a quelqu'un qui peut parler, qui peut raconter. Et donc, nous avons fait ce film avec Guy Gérard. Dans le cas des Zapatistes et du sous-commandant Marcos, c'est aussi cette notion du document. Et je pense qu'il faut faire 1000 livres. Il y a déjà quelques livres fondamentaux qui circulent en ce moment. Il y a une récopilation des textes de cet mouvement qui s'appelle, un bouquin édité par l'édition d'Agornon, qui s'appelle Diabasta, écrit du sous-commandant Marcos. Il y a le livre de Marie-Josée Nadal, il y a un bouquin de Yvon Lebotte sur la violence en Amérique latine. Il y a enfin des choses qui sont en train d'être en préparation. Et puis il y a ce document, ce film, où on peut approcher un homme qui est donc ce porte-parole, ce passeur qui raconte le récit de cette histoire. Donc là aussi, il y a cet espoir que ça soit comme des rencontres à travers de l'image avec quelqu'un, avec un document, quoi. Un document.
J'ai rencontré hier soir un jeune Mexicain qui est ici en Suisse avec sa mère. Il avait vu juste la fin de votre film sur Arte. Il voulait absolument voir le début. On sentait qu'il avait été très très touché, un peu romantiquement, émotivement parlant, par Marcos. Ça vous importe que des jeunes comme ça réagissent très affectivement à un film comme Le sous-commandant Marcos?
Ah oui, mais moi je suis passionnée par les jeunes. Hier, il y avait tout un groupe de jeunes qui sortent une revue hebdomadaire formidable qui organise une caravane où ils vont partir au Guatemala pour protéger un village et qui ont un rapport à l'ailleurs totalement différent de celui de ma génération. De la nôtre, je ne sais pas, mais il y a une telle curiosité, désir d'apprendre, de comprendre, et cette espèce de mystère qui est l'engagement, ça les intéresse profondément. Mais ils arrivent avec, sans a priori, sans discours idéologique, avec des bonnes questions, des bonnes exigences, et une espèce de désir, de curiosité formidable. Et partout, hein. J'ai senti ça au Chili, j'ai senti ça hier soir ici aux rencontres Média Nord-Sud, je le sens à Paris, il y a quelque chose qui est en train de se passer.
Une des bonnes questions, vous vous souvenez, qui vous ont posées ?
Le groupe ?
Chérie, et Viva Zapata, non ?
Non, non, c'est un groupe.
Ils veulent vous voir.
Un groupe qui est venu hier, qui sort une revue qui a un titre. Voilà. Voilà. Formidable. Formidable. Non, c'était des questions de fond. Hein. Pourquoi la violence ? Qu'est-ce que ça veut dire un mouvement armé indien à un moment déterminé ? Quelles sont les réactions du pouvoir, une connaissance sur cette énigme du pouvoir mexicain, ce parti et d'État très très sérieux, vraiment rigoureux.
Merci Carmen.
Veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba.
C'était donc notre rencontre avec Carmen Castillo, qui est réalisatrice, avec Tessa Brissa, co-réalisatrice de ce film La véridique légende du subcomandante Marcos. Carmen Castillo, par ailleurs, est également écrivaine et vous pouvez entre autres lire son témoignage sur ce fameux jour d'octobre à Santiago qui a été la fin d'une histoire, le début d'une autre. Et c'est un livre aussi écrit de façon très poétique, tendre, violente également. Jour d'octobre à Santiago, publié par Carmen Castillo aux éditions Stock, Voix de femme. Pour terminer, j'aimerais encore vous lire un petit passage qui nous envoie le scribe, le soub Marcos. Anecdote qui servent à sourire et à démontrer que nous sommes invincibles. Les éclaireurs sortent au petit matin et rentrent dans l'après-midi et me font leur rapport. « Nous avons trouvé un campement de paysans dans un vallon », dit le responsable des éclaireurs. « Il date d'il y a environ 2 ans et on voit bien que c'est un campement très peuplé car il y a 15 ou 20 abris, il y a beaucoup de bancs. « C'est vrai », interrompt celui qui l'accompagne. « Et on voit bien qu'ils se sont arrêtés pour boire de l'alcool et qu'ils ont fait la fête. » Résigné, j'en conviens et leur dis que c'est bien et qu'ils nettoient leurs armes. Le lendemain, je pars en éclaireur. Nous trouvons ce campement. Il n'y a que 5 abris et un petit banc. J'ordonne que l'on aille dans les environs rechercher des sentiers et je m'assieds sur un banc en attendant. C'est inutile. Rien n'indique qu'on ait fait la fête ou bu de l'alcool. J'ai beau m'efforcer, me concentrer, je ne parviens pas à me donner ne serait-ce qu'une petite envie de boire de l'alcool. Nous revenons en silence. Les éclaireurs repartent. Ils reviennent et me font le rapport suivant. Nous avons trouvé un grand ruisseau. On voit bien qu'il ne s'assèche jamais. C'est vrai, dit l'autre qui l'accompagnait. Il y a des mares et on peut s'y baigner. Résigné, j'en conviens, et leur dis que c'est bien et qu'ils nettoient leurs armes. Et le lendemain, je pars en éclaireur. Et nous trouvons, le dit ruisseau. Aux endroits les plus profonds, il y a 5 cm d'eau. Il s'écoule sur une 20 mètres avant de disparaître. Je le remonte jusqu'à sa source et je vois qu'il s'agit de l'écoulement des eaux de pluie de la colline et leur dis. Ce ruisseau sera bientôt à sec. Il ne séchera jamais, me répond-il. Nous revenons au silence.
Deux jours plus tard, les éclaireurs repassent à cet endroit. Ils reviennent et me font leur rapport. Le ruisseau est à sec, mais nous avons trouvé un autre, plus grand, qui ne s'assèchera pas. C'est vrai, dit l'autre, qui l'accompagnait. Il y a des mares où l'on peut se baigner. Résigné, j'en conviens, et leur dis que c'est bien, et qu'ils nettoient leurs armes. En somme, nous sommes une armée de rêveurs, et pour cette raison, nous sommes invincibles. Comment ne pas vaincre avec cette imagination qui emporte tout ? Nous ne pouvons pas perdre, ou plutôt, nous ne méritons pas de perdre. Depuis les montagnes du sud-est mexicain, le subcommandante insurgé Marcos.
Si ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin.
Vous pouvez également revoir ce soir, il y a une représentation supplémentaire de la véridique légende du subcommandante Marcos, ce film donc réalisé par Carmen Castillo et Tessa Brissac. C'est donc à l'occasion des rencontres médias Nord-Sud et c'est à Fonction Cinéma. Je ne sais pas l'heure, vous n'avez qu'à téléphoner. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ? Il n'y a pas de numéro de téléphone.
Si. Oui, il y a un numéro de téléphone. Vous pouvez appeler le 708 81 93. Je répète, 708 81 93, donc à Genève, pour obtenir des informations l'heure de diffusion du film, parce que c'est une supplémentaire. Nous n'avons pas eu le temps de savoir à quelle heure était diffusé le film avant l'émission. Par ailleurs, ce soir aussi, il y a autre chose qui peut vous intéresser. En tant que femme, il devait normalement y avoir une rencontre avec Gisèle Halimi. Et Madame Gisèle Halimi ne peut pas venir, nous dit-on. Donc, en lieu et place, un débat sur le thème « Les nouveaux médias africains, une chance pour les femmes ?» Et ce débat sera animé par une journaliste de la Tribune de Genève, Claire Kaploun, Jean-Philippe Rapp de la télévision suisse romande et fondateur des rencontres médias Nord-Sud, auxquelles participeront toute une brochette de journalistes africaines, dont Franceline Oubda, qui vient de la télévision du Burkina Faso, Françoise Kitouska, de la télévision du Congo, Margaret Fombé-Foubé, de la télévision du Cameroun, Simonette Razouampanina, de la télévision de Madagascar, et Leila Taleb, de la télévision marocaine. Ceci, c'est à 20h30, mais c'est à 1 et 2, attention, en auditoire rouillé, à Genève, je répète. Débat sur les nouveaux médias africains, une chance pour les femmes, mercredi ce soir, donc 5 avril, 20h30, auditoire rouillé, Uni de Genève.
Thank you. Juanazo, bonitito, y le pusieron San Expedito, como era abogado de los Santana, porque era sazón para la marihuana. Marihuanazo, bonitito, y le pusieron San Expedito, como era abogado de los Santana, porque era sazón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos decolorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos decolorados y la boca reseca, reseca. Sumisuni cantaba la rana y echaba los polvos de la marihuana. Marihuana, su muñequito, y le pusieron San Expedito, como era abogado de los Santana, porque era sazón para la marihuana. Marihuana, su muñequito, y le pusieron San Expedito, como era abogado de los Santana, porque era sazón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos redecolorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos redecolorados y la boca reseca, reseca.
Eh bien ça, c'est un duet de jeunes femmes mexicaines-américaines, c'est-à-dire principalement de la zone Texas-Arizona-Nouveau-Mexique. Et puis, eh bien, c'est les tout premiers duets de femmes qui ont existé entre les années 1930-1955. Bien évidemment, traditionnellement, la société mexicaine n'acceptait pas que les femmes chantent, et c'était une prérogative largement masculine. Et on acceptait vaguement qu'elles chantent à l'opéra ou des zarzuelas ou au théâtre, mais en tout cas, la chanson populaire, il en était exclu. Et les femmes ont dû se battre pour arriver à faire accepter, premièrement, qu'elles pouvaient chanter et obtenir surtout une formation musicale à la hauteur de leurs ambitions, et deuxièmement, qu'elles gagnent leur vie en chantant. Et alors, des premiers duos, eh bien, il y a les sœurs Mendoza, Maria et Juanita. Il y a aussi eu Carmen et Laura. Et finalement, Lydia et sa mère, Leonora Mendoza. Et nous vous proposons d'en écouter encore quelques-unes.
Ropa la tengo en mi casa, dinero lo sé ganar.
Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8 et nous écoutons toujours ces anciens duos de femmes dans la zone Nouveau-Mexique, Texas, Arizona.
Horizonte, vela velejando.